Alors, Vincent m'a dit de ne pas dépasser les 25 minutes. Et je vais essayer d'y tenir. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer une nuit sainte. Nuit sainte d'abord à cause du mystère que nous célébrons. Il nous a été annoncé que ce soir même, nous célébrons par anticipation, bien sûr, un des plus grands mystères de notre foi chrétienne, le mystère de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Cette nuit, sainte par ce que nous célébrons, se sanctifie aussi par ces centaines de personnes rassemblées dans cette église pour louer Dieu, pour prier, pour chercher elles-mêmes à se sanctifier, pour implorer notre Dieu. Oui, votre prière donne un caractère spécial à cette nuit, qui pour cela aussi est une nuit sacrée, une nuit sainte. Je voudrais souhaiter à chacun de vous, et je prie pour cela, avec les autres célébrants ici, que le Seigneur vous bénisse tous. Je souhaite que le Seigneur qui vous a fait venir ici ce soir, bravant le froid, touche chacun de vous dans votre cœur, dans votre âme. Je prie avec les autres célébrants de ce soir pour que le Seigneur bénisse vos familles. Chacun de vous est venu avec un lot d'intentions de prière, pour soi personnellement, pour la famille, pour les amis et pour d'autres personnes qui sollicitent vos prières, qui vous demandent d'intercéder pour elles. Nous allons prier les uns pour les autres. Et en tout cas, pendant cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur d'exaucer vos prières, de vous écouter, de donner à chacun ce qu'il lui demande et ce qu'il lui faut. Et comme il est généreux au-delà de ce que nous pouvons espérer, lui-même, dans sa miséricorde et dans son abondance et générosité, donnera à chacun ce qu'il désirera lui donner selon le mystère de son amour. Aujourd'hui, disais-je, nous célébrons un mystère très important, l'Immaculée Conception. Et en célébrant l'Immaculée Conception, nos yeux sont bien sûr tournés vers la Mère du Sauveur, vers la Vierge Marie, Marie de Nazareth, vers celle qui est la Mère de l'Église. Tout en gardant nos yeux, nos regards tournés vers elle, je crois que nous avons aussi nos esprits et nos cœurs qui se rapprochent de notre Dieu et qui ne s'écartent pas de lui, de son Fils Jésus et de l'Esprit Saint qui les réunit. Parce qu'aujourd'hui, en célébrant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous ne célébrons pas seulement une grâce spécial qu'un être humain reçoit de son Dieu. Je crois que un pan, un aspect important du mystère même de Dieu se dévoile devant nous. Dieu nous montre jusqu'où il peut aimer les êtres humains qu'il a créés. Et je crois que pour entrer un peu dans l'intelligence, la compréhension, l'approche, si vous voulez, de ce mystère de l'Immaculée Conception, il faut aller même un peu plus loin que cet extrait de la Genèse que nous avons entendu en première lecture. Il faut peut-être commencer par Saint Paul qui nous dit ce que Dieu voulait faire des êtres humains qu'il a créés. Il nous a voulu saints et irréprochables. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que nous en savons au début du livre de la Genèse. Quand Dieu va créer l'être humain, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu n'a pas seulement voulu que l'être humain soit semblable à lui dans son agir, mais il a voulu faire quelque chose de tout à fait spécial. Il a voulu partager avec l'être humain une de ses qualités essentielles, ce sans quoi Dieu n'est plus Dieu. Et cela, c'est sa sainteté. Dieu a voulu que l'être humain qu'il crée partage sa sainteté, soit saint comme lui. Et c'est pour cela que plus tard, le Christ va nous rappeler cette vocation. Que dis-je? Cet être de nous-mêmes que Dieu a mis en nous. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est cela que Saint Paul nous dit aujourd'hui. Il nous a voulu saints et irréprochables, purs en toutes choses, pour que nous puissions former cette race choisie, ce sacerdoce royal, ce peuple de Dieu qui communie avec son Dieu, qui peut faire un avec son Dieu, qui peut rester avec son Dieu. Ce peuple qui ne s'éloigne pas de son Dieu parce qu'il ressemble à son Dieu. Ce peuple qui peut s'adresser à son Dieu parce qu'il fait partie de ce Dieu, parce qu'il a reçu quelque chose de ce Dieu-là. Et nous, ce soir, nous sommes une partie de ce peuple de Dieu. Et nous sommes contents, joyeux, et nous pouvons remercier notre Dieu parce qu'il ne nous a pas seulement créés à son image, il a voulu que nous puissions, chacun de nous, participer, partager sa sainteté. Mais après, nous avons bien sûr cette première lecture que nous venons d'entendre. Dieu qui nous a partagé sa sainteté. Dieu qui a voulu que nous soyons un avec lui. Un pas seulement dans les sentiments, mais un aussi dans la façon d'être. Un parce que nous le suivons. Un parce qu'on ne se détache jamais de lui. Ce Dieu-là nous a montré un chemin pour rester dans cette grâce qu'il nous fait, le chemin de l'obéissance. Nous connaissons l'histoire que ce chemin de l'obéissance nous a été difficile à parcourir. Il nous a été difficile de nous maintenir sur ce chemin de l'obéissance. L'histoire d'Adam et Ève que nous venons d'entendre est l'histoire de toute notre humanité. Nous savons par expérience que même les plus braves d'entre nous ne réussissent pas à cet examen. Nous nous souvenons tous de Paul, l'un des plus engagés parmi les disciples du Christ, l'un des plus vigoureux dans l'histoire du christianisme, qui va s'étonner. Comment se fait-il que ce bien que je veux faire, je n'arrive pas à l'accomplir? Et ce mal que je redoute, ce mal que j'évite de faire, comment se fait-il que j'y tombe? Et si on écoute Saint Jean, cet apôtre qui s'est tellement approché du Seigneur qu'il pouvait entendre même les ronflements, si on peut dire ainsi, les soupirs de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui va dire, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, celui-là est un menteur. Qu'est-ce à dire que le péché nous colle au dos? Qu'est-ce à dire sinon que l'être humain que nous sommes tous a quand même part avec la désobéissance à Dieu? Et alors, si nous revenons chacun à notre expérience, et je pense que pendant cette nuit, chacun pourra revenir à son expérience, comme personne, comme famille, nous pourrons aussi revenir à nos expériences, comme groupe de divers ordres, nous pourrons aussi revenir à notre expérience, et nous allons voir comment ce péché nous colle au dos. Et alors on se demande, comment pourrions-nous être saints comme notre Père Céleste est saint? On se demande comment avons-nous perdu cette sainteté que le Seigneur nous a donnée au moment de la création de l'homme, de l'être humain, de l'homme et de la femme. Si nous considérons tout cela, alors nous pouvons saisir la portée, la force et la grâce du mystère que nous célébrons aujourd'hui, l'Immaculée Conception. Dans cette humanité qui semble avoir fait un nouveau pacte avec le mal, non pas que ce soit de façon toujours volontaire, mais que nous ayons en nous comme quelque chose qui nous rattache toujours à la désobéissance à Dieu, qui nous écarte toujours du chemin que doivent prendre les enfants de Dieu. Voici que Dieu vient intervenir. Dieu vient intervenir et il va choisir une fille, une jeune femme de Nazareth. Elle s'appelait Marie. Et cette femme-là, ce que Dieu a fait d'elle, ce n'est pas d'abord ce que nous avons entendu dans l'évangile de tout à l'heure, mais c'est bien avant cela, bien avant cette scène de l'évangile. Et Dieu a dit, voilà, en Marie, je vais enlever ce qui empêchait les humains de m'obéir. Quand il s'agit d'aller vers Dieu, nous marchons comme quelqu'un qui a une épine dans la chaussure. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas fait cette expérience-là d'avoir une épine dans la chaussure et de devoir marcher. Alors j'ai dit, l'Immaculée Conception, c'est un peu comme Dieu qui vient retirer cette épine de notre chaussure, qui nous empêche d'aller promptement et directement à lui. Marie, conçue sans péché, Marie, née immaculée, est cette partie, cette portion de l'humanité qui reçoit cette grâce. La grâce de voir l'épine enlevée de sa chaussure. Enfin, un être humain pourra obéir promptement à Dieu sans ressentir la lourdeur. Un être humain pourra écouter la parole de Dieu sans se fatiguer. Un être humain pourra accomplir la volonté de son Dieu à temps et à contre-temps. Voilà la grâce de Marie. Voilà la grâce de l'Immaculée Conception. Et alors, en cela, Marie devient en quelque sorte prophète. Marie devient prophète pourquoi? Parce que par son Immaculée Conception, elle est en elle-même une annonce. La grâce de Marie n'est pas dans l'exception qu'elle pourrait constituer. La grâce de Marie est plutôt dans l'anticipation, dans la réception de cette grâce. Marie n'est pas une exception au sens absolu, parce que ce qu'elle a reçu au moment de la conception, les autres disciples du Fils qui va naître d'elle vont le recevoir aussi au moment du baptême. Au moment du baptême, nous recevons tous cette grâce de l'Immaculée, d'être immaculée, comme Marie l'a reçue au moment de sa conception. Mais les prophètes, parce qu'elle annonce une ère future, elle annonce un nouveau temps, une nouvelle période, un nouveau type de relation entre l'être humain et Dieu. L'Immaculée Conception de Marie ne l'empêche pas de connaître la tentation. L'Immaculée Conception de Marie n'aplanit pas devant elle le chemin. Si Dieu lui a enlevé une épine de la chaussure, il y en aura d'autres sur son chemin. Elle connaîtra des épreuves sur sa route. Et nous savons tout ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de Notre-Dame de cette douleur. Nous lisons les évangiles et nous savons qu'elle a connu des moments où elle pouvait se décourager. Elle a connu des moments où elle pouvait aussi désobéir. Elle a connu des moments où elle pouvait perdre la foi, l'espérance. Ce n'est donc pas l'Immaculée Conception qui lui enlève ces épreuves-là. Mais l'Immaculée Conception de Marie lui donne l'espérance. L'espérance. L'espérance que la volonté de Dieu est de nous faire partager sa sainteté. L'Immaculée Conception de Marie renforce sa foi que Dieu ne se contente pas de créer ses enfants à son image. Il vient à leur secours pour qu'ils conservent cette image-là. La foi que Dieu ne se contente pas de dire à l'être humain le chemin de la vie qu'il doit emprunter. Il ne se contente pas de lui dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il vient aussi à son secours quand cet être humain essaie de toutes ses forces d'obéir à ce Dieu. Nous, baptisés, nous aussi devenus immaculés dans le baptême, nous n'échapperons pas à la tentation. Même si on change de notre Père, on n'échappera pas à la tentation. Nous sommes exposés à cette tentation tentation pour désobéir à Dieu, tentation pour pécher, comme on dit, en pensée, en parole, par action et par omission. Tentation à nous refermer à nous-mêmes dans l'égoïsme. Tentation à nous enfermer dans la haine et de refuser le pardon. Tentation à nous déchirer entre nous, à nous diviser, à nous combattre et à nous tuer les uns les autres. Cette tentation à faire pleurer Dieu quand il nous voit vivre, nous y sommes exposés. Mais, comme Marie, nous avons reçu ce qu'elle a reçu au moment de notre baptême. Et alors, nous avons reçu, comme elle, du carburant. Et du carburant pour avancer. Le carburant seul ne nous permet pas d'avancer. Il faut être bon chauffeur et il faut avoir une bonne voiture. Alors, c'est à nous, en célébrant ce mystère de l'Immaculée Conception, de comprendre que nous avons reçu de Dieu ce que la Vierge Marie a reçu. Et que Dieu nous attend à destination. Il a enlevé la chaussure, l'épine de notre chaussure. Et maintenant, il nous attend pour que nous puissions marcher droit et que nous ne prenions pas d'autres épines en cours de route. Il nous a donné du carburant pour que nous puissions rouler bien et arranger notre voiture. Alors, la Vierge Marie prophète, mais aussi elle devient une mère. Elle est choisie par Dieu pour être une mère. Et c'est pour cela qu'elle reçoit cette grâce de la purification pour être une mère, une maman. Et c'est toute une signification. Dieu qui, au moment de la création, a voulu créer l'homme dans la famille, c'est ce Dieu-là qui choisit la Vierge Marie, accomplit de l'inédit pour qu'elle soit une maman, une mère de famille. Voilà Dieu qui est lui-même déjà famille. Dieu qui va vouloir que son fils naisse dans une famille. Y a-t-il meilleur moyen d'ennoblir la famille humaine? Peut-on encore douter que Dieu veut que la famille humaine soit un reflet de sa gloire? Peut-on encore douter que Dieu veut que la famille humaine soit le lieu où on peut accomplir ce grand commandement? Quand le Christ répond à la question, quel est le plus grand commandement? Il dit deux choses. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et il va dire l'autre, aime ton prochain comme toi-même. Et où est-ce qu'on peut aimer son prochain comme soi-même? C'est très difficile. Mais Dieu, en créant la famille, crée un cadre où on peut aimer son prochain comme soi-même, où le parent peut aimer son enfant comme lui-même, où les époux peuvent s'aimer comme ils s'aiment eux-mêmes, La famille est un don de Dieu parce que c'est un cadre où Dieu nous permet de réaliser cette deuxième partie du grand commandement de l'amour que le Christ nous donne. Vivre en famille, c'est être béni, parce qu'au moins, on a l'occasion d'aimer une personne comme soi-même. On n'a pas besoin d'aller chercher loin la personne qu'on va aimer comme soi-même. Et c'est ça que Dieu réalise dans la famille. Et nous ne pouvons pas l'oublier aujourd'hui que nous célébrons l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception de Marie nous ramène donc, comme je l'ai dit, aux origines où nous nous rendons compte que Dieu, qui est notre Créateur, veut partager avec nous quelque chose de lui-même. Dieu veut partager quelque chose de lui-même avec tous les êtres humains qu'il a créés. Et alors là, on comprend qu'au-delà de nos familles nucléaires, il y a la grande famille des êtres humains. La grande famille de tous ceux-là qui ont été créés par Dieu et qui savent qu'ils ont tous reçu quelque chose de ce Dieu-là. Et en reconnaissant chez les autres ce que nous avons reçu de Dieu, on se reconnaît comme frères et sœurs, malgré les différences de race, malgré les différences de religion, malgré les différences de pays, malgré les différences de conditions sociales. Et on comprend que finalement, on est un parce qu'on vient de Dieu. Travailler pour l'unité, promouvoir l'unité, c'est revenir à cette source commune. C'est reconnaître que tout être humain que je rencontre vient de Dieu et a quelque chose de Dieu. Et en l'approchant, je vais retrouver en lui ou en elle ce que j'ai en moi-même, c'est-à-dire Dieu. C'est ainsi qu'on peut aider nos frères et sœurs qui visiblement essayent de perdre cette divinité en eux-mêmes. C'est ainsi qu'on peut aider ceux qui risquent de compromettre cette dignité à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. La fraternité, la solidarité, l'entraide, tout cela part de là. Et ce mystère de l'Immaculée Conception qui nous ramène à la création est là pour dire que nous sommes un, comme enfants de Dieu. Et alors, si nous sommes un, tous enfants de Dieu, nous avons aussi cette mission d'apporter aux autres ce qu'ils ont déjà reçu. De leur apporter ce Dieu qu'ils ont reçu. Et c'est cela le mouvement d'évangélisation. Apporter aux autres le Dieu qu'ils ont déjà reçu en eux-mêmes. Aujourd'hui, nous célébrons la Vierge Marie. Après l'évangile que nous venons d'entendre, nous savons très bien ce qui suit. Après l'Annonciation, c'est la Visitation, la mission qui commence. Et alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas manquer de penser à toutes les personnes depuis plus de 2000 ans qui se sont consacrées à l'annonce de la bonne nouvelle du Christ à d'autres. La France pour laquelle nous prions aujourd'hui est une de ces nations-là dont les fils et les filles ont traversé les océans, sont allés sur tous les continents pour apporter la bonne nouvelle du Christ, apporter à leurs frères et sœurs ce qu'ils ont reçu déjà, la vie de Dieu, la parole de Dieu. Nous devons prier pour ces missionnaires. Beaucoup vivent déjà en communion avec Dieu, beaucoup sont encore sur le terrain. Mais nous devons aussi prier pour cette nation, pour qu'elle continue d'être ce flambeau de l'évangélisation qu'elle a été, et que la flamme ne soit pas mise sous le lit, et que la braise ne se refroidisse pas, et que Dieu continue d'allumer le feu de son amour, que Dieu continue d'appeler les personnes qui veulent vivre à l'exemple de la Vierge Marie, qui accueillit le don de la sainteté et qui veut le partager avec d'autres. Loué soit Jésus-Christ.